Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Il est attendu ce mardi à Lodja au Sankuru. Le chef de l'État était hier à Tshikapa où il s'est adressé à la population. Félix-Antoine Tshisekedi s'est basé plus sur la question des violences sexuelles contre les femmes et il dit non au mariage précoce des jeunes filles. Et puis la RDC commémore ce 4 janvier, le martyr de l'indépendance. 4 janvier 1959, cette journée où deux émeutes ont éclaté à Léopoldville, faisant ainsi de ce jour le jour qui a lancé la série des revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance le 30 juin 1960. Enfin, nous recevrons dans cette édition du journal, comme invité, le chef de travaux Jules Okété, enseignant à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani. Il s'exprime à l'occasion du 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le président de la République est attendu ce mardi à Lodja, dans la province du Sankuru, selon la presse présidentielle. Hier lundi, Félix-Antoine Tshisekedi était à Tshikapa, dans la province du Kasaï, en compagnie de la première dame. Lors de son adresse à la population locale, dans un meeting, le chef de l'État a évoqué plusieurs problèmes sociaux. Gratuité de l'enseignement, de base, eau et électricité, mais surtout, violence sexuelle contre les femmes. Félix-Antoine Tshisekedi dit non au mariage précoce des jeunes filles. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait proposé par Freddy Lufulobo.
Je vais vous dire ce problème qui me tient à cœur, celui concernant la lutte que je mène contre ceux qui violentent les femmes. Vous savez, les femmes sont des êtres de valeur, elles nous ont enfantés, elles nous ont élevés. Il ne faut pas marier la jeune fille de manière précoce. Ça, je refuse à tout jamais. La fille doit avoir les mêmes chances que le garçon. Quand j'ai initié la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement pour les garçons. La fille aussi doit étudier jusqu'au bout. Si elle veut se marier, qu'elle se marie. Mais il ne faut pas la marier de force.
Sur place à Tshikapa, les habitants ont à leur tour relevé devant le chef de l'État tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'était au cours de son meeting hier à Tshikapa. Selon le député Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa, qui était présent à ce meeting, parmi ces problèmes figurent notamment les carrés miniers, la fourniture en eau et électricité. On l'écoute au micro. Il a été joint plutôt par Alain Irung.
Il y a eu au total 5 Tshikapiens qui ont pris la parole pour lui dire directement la vérité. Les problèmes soulevés sont notamment relatifs à la gestion des carrés miniers. C'est un problème vieux que nous avons toujours soulevé, c'est que les carrés miniers sont détenus par des personnes qui n'ont ni titre ni droit et la population est exclue de ces terres-là, même pour l'agriculture. Ça, c'est un problème qui touche directement la population. Il y a également le problème de l'eau et de l'électricité qui est hors la bourse des habitants du Kasaï. Donc, il n'y a pas assez d'eau potable partout et l'électricité qui est là est assez chère. En dehors de ça, il y a le grand problème d'ouverture de la route vers l'Angola par Kanjaji. Ce sont les questions principales qui ont préoccupé la population. Et je crois que le chef a eu à donner un message d'espoir par rapport à son programme de 145 territoires pour dire qu'il y aura un budget réservé pour chaque territoire qui pourrait le permettre de décoller. Et nous, en tant que députés, nous restons à l'écoute, nous restons faire le suivi pour l'effectivité de ce projet-là. Mais faut-il encore vraiment mettre un accent particulier sur la gouvernance? Les fonds peuvent être décaissés, mais quand la gouvernance n'est pas bonne, donc on ne peut pas avoir un produit, un résultat dans le sens de développer la province.
Autre nouvelle, une vive tension a prévalu hier lundi, avant midi, dans la partie nord de la ville de Butembo, au Nord Kivu. Des membres du groupe de pression Parlement Debout de Fourou ont manifesté pour réclamer le départ de la MONUSCO. Ils ont placé des barricades sur la voie publique depuis la nuit dans la cellule Fourou, à l'entrée nord de la ville. Les forces de l'ordre ont tout dégagé dans l'avant-midi en dispersant des attroupements des jeunes par des tirs de sommation. En réaction, la société civile urbaine appelle les représentants des groupes de pression de Butembo à changer de méthode car, d'après elle, la paralysie des activités ne constitue qu'une autoflagellation. Van Germain Katiwa, premier vice-président de la société civile de Butembo, est au micro de Sadiki Aboubakar.
C'est pas un secret, la ville de Boutembo, nous savons que tous les groupes de pression qui sont ici ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces élus savent pertinemment que ce ne sont pas les actions de la rue qui vont faire partir la MONUSCO. Et ces élus ont intérêt à rééduquer leur base et réorienter les actions. Parce que lorsqu'on va demander aux gens d'observer une journée ville morte, la MONUSCO, elle va continuer à travailler à l'interne. Et nous, on sera en train de fragiliser notre économie, de fragiliser le programme scolaire et académique. Nous appelons ça une autoflagellation. La première recommandation que nous pouvons adresser à la MONUSCO, c'est lui demander de considérer les revendications de la population. Qu'est-ce qu'on lui reproche et qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour éviter ces reproches-là qui sont devenus répétitifs. Et autre chose, c'est de mettre en application le plan de sortie, donc de le vulgariser, de dire à la population et même au gouvernement quelles sont les étapes qui vont commencer et on va finir par quoi. Parce que le mandat qui leur a été accordé, on a appelé ça un mandat exceptionnel.
Autre nouvelle, dans la province du Tanganyika, quelques jours seulement après les festivités de fin d'année, reprise d'activisme des miliciens Twa de groupe Apanapale sur l'axe Bendera. Le village de Lumumba vient d'en être la première cible à ce premier mois de l'année. Nous sommes à 125 km au nord de Kalemi. La société civile locale déplore les pillages de maisons. Le point de la situation avec François-Xavier Mibi.
La première incursion de l'année 2022 vient d'être perpétrée par la milice Twa. Cette incursion a ciblé tard la nuit du dimanche dernier le village de Lumumba. Lumumba est situé sur l'axe Bendera, à 103 km au nord des Kalemi. Les victimes rapportent avoir fait l'objet des pillages systématiques dans leur maison. Un membre de la société civile dans la zone confirme l'attaque. L'attaque est partie à 21h locale. Ils ont tout pillé dans le village. Ils ont aussi ligoté et enlevé le chef du village et deux autres habitants après avoir frappé son épouse. Ils les ont libérés quelques heures plus tard avec promesse de revenir dans le village. Ce sont des miliciens Twa du groupe Apanapale qui ont organisé cette attaque. Ils proviennent de la forêt environnant le secteur de Lumumba. La sécurité n'y existe pas. Les victimes font observer que les pillages ont touché toutes les maisons du village. Une situation qui survient alors que les habitants viennent de passer toute une semaine d'accalmie et sans incident sécuritaire. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Nous sommes le 4 janvier et la RDC commémore les martyrs de l'indépendance. C'était le 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, appelé à l'époque Léopoldville. En pleine colonisation belge, des émeutes dont le bilan parle de plusieurs dizaines de morts et de la casse à grande échelle faisant ainsi de ce jour, selon de nombreux commentaires, le jour qui a lancé la série des revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Rappel de cette date avec Donamadim Bambaya.
Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra d'ailleurs président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960, à Bako, prévoit ce jour-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. Objectif, ne pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant. Le jour du meeting, Kasavubu et les siens décident alors de l'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble y avait, étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges administrateurs de la RDC en ce moment-là avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place, refuse toute annulation, commence à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans le même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse, la répression vont s'aggraver, les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations parlent de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960.
La journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance retire l'attention de plusieurs habitants de Mbandaka interrogés sur ce que représente la date pour eux. Cependant, certains se félicitent de la souveraineté de la RDC acquise grâce à leur de ces martyrs, mais d'autres estiment qu'il faut beaucoup d'efforts pour capitaliser cette indépendance au risque de cracher sur leur sang. Ils l'ont dit au micro de Paul Richard Malengela.
La journée du 4 janvier, pour nous les Congolais, vraiment c'est une journée très symbolique parce que nos compatriotes congolais ont versé le sang pour que nous, le peuple congolais, soit aujourd'hui tels que nous sommes.
C'est une journée intéressante pour nous. C'est à partir de ces 100 coulées de cette journée qu'on a eu l'indépendance. Donc, ces 100 n'étaient pas coulés innocemment, mais avec un intérêt d'obtenir l'indépendance et non d'autre part.
Rien du tout. Je suis sans-foutiste, malheureusement. Je suis sans-foutiste, ça ne représente rien pour moi. Merci.
Nous félicitons nos aïeux, mais malheureusement, nous les descendants, nous avons craché sur leur sang et que nous n'avons pas accompagné leur œuvre. Donc c'est vraiment regrettable. Sinon, on peut faire l'effort de redorer l'image de leur sang et de soutenir ce qu'ils avaient fait. Ça sera bénéfique pour nous, les Congolais.
Pour nous, c'est un moment historique, une date historique très, très importante. Même dans la Révolution française, il y avait d'abord un préambule, et le préambule chez nous de l'indépendance, hein, le 4 janvier.
Rendons-nous cette fois-ci en Mbujimayi au Kassai Oriental pour écouter ce que quelques habitants de la ville d'Yamatifère pensent de cette journée du 4 janvier 1959. Ils sont au micro de Stern Dalafina.
Il faut dire qu'il y a parfois certaines personnes qui croient qu'il ne fallait pas qu'on puisse obtenir l'indépendance en ce moment-là. Mais on ne pouvait pas se développer, aller de l'avant en comptant sur le bon vouloir du colonisateur. Donc il a fallu que des fils de ce pays se mettent debout pour arrêter la colonisation et permettre l'indépendance de la République démocratique du Congo. Chaque chose a son temps. Je pense que c'était le temps de réclamer l'indépendance et ça s'est passé comme ça, c'est vrai, ils ont donné de leur vie. Pour qu'il y ait une vie, il faut mourir. Pour que la graine germe, elle doit mourir. Pour que la République démocratique du Congo existe.
Pourquoi on s'est battu pour l'indépendance? C'est la liberté. L'objectif d'un être humain, colonisé que nous étions à l'époque coloniale, nous avons voulu de la liberté. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui des martyrs de l'indépendance. Ce sont ceux-là qui sont morts pour l'indépendance. Ce n'est pas différent de ceux qui se battent aujourd'hui pour la démocratie. Parce que la démocratie s'inscrit toujours dans la lutte de la conquête de la liberté.
Pour moi, à part les causes lointaines et les causes immédiates, je pense que le 4 janvier, ça a été l'occasion qui a fait que les Noirs se lèvent pour réclamer l'indépendance.
On parle santé dans cette édition du journal. À Boma, dans la province du Congo central, les décès dus à la COVID-19 ne font qu'augmenter. Depuis la survenue le 4 octobre 2021 de la quatrième vague, le cumul de décès dans les 31 zones que compte la province est de près de 50. Mais la ville de Boma, n'ayant que deux zones de santé, a enregistré plus de 30 décès. Selon le médecin chef des zones de santé de Boma, cette mortalité élevée des malades COVID-19 est due entre autres à l'automédication et à la prise en charge tardive. Docteur Kennedy Nzebo exhorte la population à se diriger vers une structure médicale en cas de symptômes de la COVID-19. Docteur Kennedy Nzebo est joint au téléphone par Nana Plurichimambo.
Nous sommes à 31 décès. Le nombre de cas, jusqu'à hier, on était à 481. Les cas sévères, jusque-là, nous avons 6. Dès qu'on sortit, 4 sont restés hospitalisés. La prévalence est élevée, autour de 5,8. Alors, les gens sont en train de mourir parce que c'est beaucoup plus un problème de comportement de la population. Parce que les gens ne veulent pas venir à l'hôpital, les gens tombent malades à la maison, ils commencent par s'automédiquer, et quand ils ont des problèmes respiratoires, c'est à ce moment-là qu'ils courent vite vers le médecin et nous avons même eu des cas d'arrivée mort. En tout cas, il y a au moins 5 sur le 31 qui compte la zone de santé maintenant. Et donc, c'est vraiment un comportement de cette population qui pense que le fait d'aller des traitements, c'est déjà la mort, alors que nous avons soigné des gens qui sont sortis et qui ont repris leur vie normalement. Nous devons beaucoup plus travailler dans la sensibilisation ou dire que la maladie est fatale quand vous traînez à la maison. Mais quand vous prenez ça tôt, sans problème.
Actualité internationale.
En RCA, le gouvernement a donné un gros coup de pouce au salaire minimum garanti, le SMIG, qui est révalorisé de 35% en ces débuts d'année. Il passe de 18 850 à 29 000 francs CFA. C'est la première revalorisation en 30 ans. Même chose pour le SMAG, le salaire minimum agricole garanti, qui ne peut plus être inférieur à 1000 francs CFA par jour. Des hausses qui ne satisfont que partiellement les syndicats. Et puis en Chine, depuis l'adoption de la loi ultra-répressive sur la sécurité nationale, votée sur ordre de Pékin, la presse indépendante ne peut plus travailler à Hong Kong. Après la descente des polices visant un célèbre site d'information très populaire, la semaine dernière, l'une des dernières rédactions critiques du pouvoir hongkongais vient de faire un choix radical. La publication en ligne cesse d'elle-même son activité pour éviter les poursuites et préserver ses équipes.
L'invité.
La République démocratique du Congo célèbre ce 4 janvier 2022, le 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance nationale. Que s'est-il passé réellement à cette date? Quel impact ces événements ont-ils eu sur le paysage politique congolais? Et que faire pour perpétuer la mémoire des martyrs de l'indépendance? Le chef de travaux, Gilles Okété, enseignant à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, s'exprime à ce sujet. Il est notre invité ici, il s'entretient avec Jacques Moukonkolé. Suivez.
Monsieur le chef de travaux, Gilles Okété, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La République démocratique du Congo célèbre ce 4 janvier la journée des martyrs. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là?
Le 4 janvier est précédé par quelques événements. Les meetings de Lumumba à Sorengoutou d'Accra à la place communale de Kalamu le dimanche 28 décembre 1958. Il va donner les discours programmes, les objectifs du mouvement national congolais.
Son parti politique.
Son parti politique qui dit que le but fondamental, c'est la libération du peuple congolais du régime colonialiste et son accession à l'indépendance.
Alors, qu'est-ce qu'il passé le 4 janvier 59?
Comme il y avait deux partis politiques rivaux au Congo, le MNC Lumumba et l'ABAKO, l'ABAKO de Joseph Kasavubu décide de tenir les meetings le 4 janvier 1959. Alors, le premier bourgmestre de la ville de Kinshasa, Monsieur Torder, voyant l'ampleur du meeting, Monsieur Lumumba, demande à Kasavubu de reporter son meeting jusqu'au 18 janvier. Mais Kasavubu n'a pas eu le temps matériel d'informer ses militants de ce changement de dernière minute. C'est pourquoi le 4 janvier 1959, à la place Imka, elle fut prise d'assaut par une foule nombreuse que la nouvelle du report de meeting ne réussit pas à les disperser. Finalement, à 15h, Kasavubu fit une adresse annonçant le report du rassemblement. Quelques échauffourées vont apparaître avec la police, laquelle police intervient pour disperser la foule.
Donc les militants de l'ABAKO ont manifesté leur mécontentement.
Et il y a eu les concours de circonstances. Il y avait un match au stade du 20 mai entre V-Club et Mikado. Avec la défaite de V-Club, les fanatiques de V-Club mécontents, en tout cas, descendaient aussi dans la rue pour manifester. Et les deux groupes vont former un seul. Et avec ça, ça sera vraiment la débandade à Kinshasa.
Ces manifestations qui se sont produites ces jours-là ont-elles eu un impact sur l'avenir politique du Congo?
Oui. Ces manifestations ont eu un impact. Le premier impact, ce sont les déclarations du pouvoir belge. Le 13 janvier 1959, le roi se prononce, donne un point de vue pour calmer les manifestants. Le roi avait déclaré ce qui suit, je cite, « Notre résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement, funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. » Fin de citation. Ça, c'est la première déclaration. La deuxième déclaration vient du gouvernement. Vous imaginez, les rois parlent sans avoir l'avis du gouvernement et du parlement. Maintenant, le parlement se prononce encore. Voici la déclaration du parlement. Une démocratie capable d'exercer les prérogatives de la souveraineté et de décider de son indépendance. C'est ce que le gouvernement belge va proposer aux manifestants pour calmer la tension. En dehors de ces deux discours, nous assistons directement à la table ronde belgo-congolaise du 20 janvier au 20 février 1960, laquelle table ronde était déjà convoquée depuis le premier anniversaire de la déclaration de Belge du 13 janvier 59, mais le 13 janvier 60, la Belgique envoie les invitations aux Congolais.
Et avec ces manifestations, finalement, l'indépendance politique du pays a été prononcée le 30 juin 1960. Cette indépendance conquise au prix du sang a-t-elle réellement servi à l'affranchissement du peuple congolais?
quand vous posez la question aux vieux qui ont travaillé à cette époque-là, ils vont vous dire que, en général, les Congolais ne bénéficient pas des avantages de l'indépendance de leur pays. En dehors de cette négativité, ils disent que nous assistons jusqu'aujourd'hui au pillage, au vol, au détournement en général et beaucoup d'autres antivaleurs. C'est comme si nos morts sont morts définitivement.
Alors, comment nous inspirer de cet acte de bravoure de nos martyrs?
Comment nous inspirer de cet acte de bravoure, messieurs les journalistes? Nous devons commémorer la journée des martyrs chaque année. Comme on le fait, c'est pour perpétuer la mémoire de nos frères. Nous devons aménager les liens symboliques en rapport avec tous ces événements-là. Nous devons améliorer les programmes de nos cours à partir du primaire, secondaire et enseignement supérieur dans des cours d'histoire, d'éducation à la citoyenneté et de civisme. Vous devez travailler pour le développement intégral de la RDC, pour reprendre le credo du président des USA Kennedy qui disait « Qu'est-ce que j'ai fait pour le pays ?» et non de vous poser la question « Qu'est-ce que le pays fait pour moi ?»
Monsieur le chef des travaux, Jules Okété, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.